Vous découvrez le monde de la bourse et du trading, certaines personnes peuvent vous aider. J'en connais et je les ai invités à partager leurs connaissances avec vous. Je suis le Tradosaur et vous écoutez Conversation avec Trado. Bon, salut Jory, je suis très content de t'avoir de l'autre bout de l'ordinateur sur un micro à 20 000 km interposés. Tu vas bien?
Ça va et toi? Je te remercie pour cette interview en tout cas, Tradosaur. Ça fait très plaisir de participer à ton contenu.
Ah bah écoute, ça me fait également très très plaisir et je sais que ce que tu vas dire va intéresser beaucoup beaucoup de monde à plusieurs titres. Tout d'abord à cause ou grâce à ton expérience professionnelle, parce que quand même tu as atteint une sorte de graal, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Et puis bon, bien sûr, à cause également, grâce à ton contenu disciplinaire, hein, puisqu'on verra que tu t'es spécialisé dans certains domaines et que tu maîtrises suffisamment pour apporter une aide significative à ceux qui débutent. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Joris?
Très bien. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Joris Zana, analyste de marché pour Deli FX France. Et actuellement, eh bien, je propose des émissions quotidiennes à mes lecteurs, à mes clients, pour qu'ils puissent découvrir la bourse, comprendre les éléments qui pilotent, on va dire, la bourse, les fondamentaux et la partie technique. Donc, tous les matins, on peut me retrouver dans une émission où j'essaye de décrypter, de vulgariser au mieux les marchés. Sinon, eh bien, je rédige des articles tous les jours, quotidiennement, pour notre site Deli FX. Avant ça, j'étais justement conseiller boursier dans une banque. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et ensuite, je me suis retrouvé dans un cabinet d'analyse technique pendant 1 an, où là, j'ai pu faire mes armes. J'étais essentiellement sur le marché actions. On avait différents portefeuilles et on devait envoyer des recommandations à des clients. Et ainsi, bah, j'ai pu m'entraîner, m'améliorer, du moins, tout au long de cette année pour parfaire, on va dire, ma panoplie et mes armes concernant l'analyse technique. Et aujourd'hui, bien, je suis justement analyste de marché pour Deli FX France.
Super. Bah, justement, puisque tu en parles, toi, tu as réussi à intégrer une boîte spécialisée dans l'analyse technique, qui est un petit peu, comme on l'a dit précédemment, le rêve de beaucoup de ceux qui se lancent dans ce domaine, qui est très spécifique. Tu as un ancien d'une école de commerce. Est-ce que tu penses que ça aide ce parcours, hein, d'école de commerce pour intégrer ensuite un poste comme le tien, ou du moins le premier que tu as obtenu dans le domaine?
Alors, pour être franc, je dirais que pour faire de l'analyse technique, on n'est pas obligé de sortir d'une école de commerce. Dans le sens où l'école de commerce va vous apprendre, elle va poser les bases, elle va vous donner les fondations. Mais derrière, j'ai beaucoup appris par moi-même, beaucoup étudié de mon côté, beaucoup lu de bouquins spécialisés dans l'analyse technique pour me parfaire. Et ça ouvre la voie, les écoles de commerce, mais c'est pas une religion, on va dire. C'est sûr que sur un CV, ça passe toujours un peu mieux de dire qu'on a fait une école de commerce et que ça présente, ça montre qu'on a un peu un bagage derrière, on est un peu plus solide, mais je pense que tout le monde peut faire de l'analyse technique. En tout cas, analyser les prix, les graphiques, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir un peu de bonne volonté, je dirais, et d'être surtout passionné. Parce que c'est un domaine où, principalement, les gens avec qui je discute sur l'analyse technique, on sent que c'est des passionnés, on sent qu'on aime ce domaine-là. Et si on a envie d'approfondir ce domaine de compétences, eh bien, on n'est pas obligé de passer par une école de commerce. Certes, ça a des avantages, parce que dans l'école de commerce, on va avoir des professeurs qui vont nous enseigner différentes matières, on va avoir un large éventail, ce qui fait qu'on va pouvoir faire des corrélations. Mais si vraiment le but, c'est de faire du trading et de l'analyse technique derrière, l'école de commerce n'est pas forcément la meilleure école, en tout cas, pour se développer et devenir un expert dans ce domaine-là.
Ok, et qu'est-ce qui explique justement que toi, tu aies réussi, je parle de ton CV, hein, à intégrer une boîte où on fait de l'analyse technique, alors qu'on sait très bien que les places sont chères, elles sont rares, et qu'en plus, donc tu avais un background d'école de commerce, mais pas forcément ce qu'il y a de plus adapté à un poste comme le tien.
Tout à fait. Exactement. Donc moi, j'ai fait pendant 3 ans de l'analyse technique au sein d'une école de commerce. Donc bien sûr, j'ai eu un professeur qui est assez reconnu dans le milieu à Paris, Jean-Étienne Lenné, à qui je passe le bonjour s'il écoute cette vidéo plus tard. Mais il m'a formé pendant 3 ans. Mais derrière, il nous donne les bases, on va dire. Après, c'est vraiment à nous d'approfondir ce domaine de connaissances, d'expertise, à travers plusieurs bouquins que j'ai pu lire, que ce soit le John Murphy, le Martha Pring, les chandeliers japonais avec Steve Nissen. Donc, ce que j'ai retenu de ça, c'est que on nous donne, si tu veux, un avant-goût de l'analyse technique, on nous donne les bases, mais derrière, c'est à nous de travailler vraiment, surtout, l'analyse technique, c'est tellement large, c'est une boîte à outils. L'analyse technique, pour moi, c'est une boîte à outils et on pioche certains outils pour faire notre analyse et étudier les graphiques, les prix, essayer de comprendre la psychologie des marchés. Et il existe des milliers d'indicateurs, il existe des milliers de façons de représenter les prix, que ce soit les chandeliers japonais, les bar charts, le graphique linéaire. Donc, après, c'est vraiment de l'entraînement, de la pratique et c'est ce qui va permettre. Justement, je pense en tout cas d'avoir une bonne vision de l'analyse technique et de trouver sa méthode, ce qui est surtout important. Et moi derrière, je dirais qu'en ayant travaillé, en ayant lu plusieurs bouquins, ça m'a permis de développer une certaine méthode, une certaine rigueur dans mon analyse, ce qui fait qu'après, j'ai plutôt bien réussi à me vendre pour certains postes, et puis bien sûr, continue, je dirais que l'analyse technique, c'est un long chemin d'apprentissage. On ne devient pas expert en 2 ou 3 ans d'analyse technique. Je connais des techniciens de marché qui ont 20, 30 ans d'expérience et qui, tous les jours, apprennent encore des choses sur l'analyse technique. Car il y a vraiment pas de limite, en fait. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver sa méthodologie et, en fonction, bien sûr, de son profil, et ce qui nous correspond le mieux pour étudier, on va dire, les prix et les graphiques.
Alors justement, Joris, puisque tu parles des différents outils, on sait qu'il y en a des centaines, c'est pas une façon de parler, hein. On peut dire qu'il y a même beaucoup beaucoup d'indicateurs qui sont inventés par des particuliers qui customisent tout le temps. Et toi, j'ai remarqué sur tes graphes que tu étais très minimaliste, hein, dans les outils que tu utilises, hein, ça, y a pas des indicateurs partout. J'ai essentiellement vu au niveau des indicateurs techniques le RSI et bon, on sait que ta spécialité c'est quand même les chandeliers japonais et les figures chartistes, on est d'accord?
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un débutant qui souhaite s'intéresser à l'analyse technique, c'est compliqué. C'est compliqué car, comme tu le dis, on a beaucoup d'indicateurs tous les jours sur le marché. On peut en trouver plein. Il y en a des nouveaux qui se créent. Et on a l'impression d'être noyé complètement dans cette panoplie d'indicateurs. C'est pour ça que c'est important, avant de commencer, je dirais, de sélectionner quelques indicateurs et de se sentir à l'aise et non pas de se dire tiens j'ai vu cette personne avec cet indicateur-là, je veux absolument l'utiliser. En fait, chaque indicateur, je pense, est aussi propre à son profil et à son système. Donc, déjà, il va falloir faire un filtre. Et bien sûr, il y a des indicateurs qui sont quand même, on prend le RSI ou le stochastique, ou les points pivots, c'est des indicateurs, des éléments de marché que beaucoup d'intervenants du marché utilisent. Déjà ça dans un premier temps. Ensuite, moi j'ai choisi le RSI essentiellement car c'est un indicateur, je dirais que je pense que beaucoup, beaucoup d'intervenants et tout le monde connaît, qui est plutôt facile à utiliser, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'une grande recherche, d'une grande compréhension, puisque c'est simplement des phases de surachat et de survente qui représentent essentiellement les forces acheteuses et les forces vendeuses du marché. Donc un indicateur assez simple. Après, bien sûr, l'indicateur, il ne suffit pas de juste de le regarder pour voir si ça monte ou si ça descend. Et on a différentes interprétations avec les divergences, notamment. Donc là, c'est vraiment ma façon d'utiliser l'indicateur RSI. Ça va être à travers les différentes divergences, que ce soit les divergences haussières ou baissières. Après, sur mon graphique, je suis assez puriste, on va dire. J'aime les choses simples et je me considère plus comme un technicien de marché, oui, on va dire puriste dans le sens où j'utilise les figures chartistes et les chandeliers japonais. Et c'est un bon élément, c'est une bonne base en tout cas pour se construire. Puisque finalement, les prix, c'est ce que tout le monde voit, tout le monde regarde. Et dans les prix, on voit beaucoup de choses. On remarque que dans l'action des prix, en fait, représente tout simplement la psychologie des marchés et des opérateurs. Ce qui fait que pouvoir décrypter les chandeliers japonais, pouvoir lire les chandeliers japonais, ça permet de comprendre l'action des prix. Et ça, je pense que c'est un bon début pour une personne qui souhaite débuter en bourse, par où commencer au lieu de se noyer dans les indicateurs, commencer par des choses simples que tout le monde regarde, à savoir les prix. Pour moi, l'indicateur le plus important, en fait, c'est les prix. C'est uniquement c'est les prix et rien que les prix. C'est l'indicateur qui délivre le plus de signaux et c'est celui au moins où chacun, il n'y a pas une interprétation, on va dire, personnelle, puisque l'action des prix, finalement, tous les techniciens, quand on ouvre un graphique, on a le même graphique. Après, c'est savoir où on va poser nos supports, notre résistance, mais il n'y a pas de, je dirais, de mauvaise interprétation. Après, c'est l'étude, essayer d'approfondir et nous dire quel message nous envoient les prix, quel message, quelle est la psychologie des marchés à ce moment-là. Et je trouve vraiment pertinent de pouvoir interpréter juste avec les prix, on va dire, la psychologie des investisseurs.
Alors, est-ce que ça veut dire que tu utilises le RSI, mais jamais tu ne prendrais un signal d'achat ou de vente qu'au regard du RSI? Ou est-ce que tu peux effectivement entrer en action, acheter, vendre ou débouquer une position uniquement avec un signal RSI?
Il m'arrive de prendre une position uniquement avec un signal RSI. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, imaginons que je prends une divergence haussière ou baissière dans mon trading.
Tu peux rappeler rapidement ce que tu appelles une divergence haussière pour le RSI, s'il te plaît?
Tout à fait. Une divergence, en fait, ça va être, pour expliquer au nouvel et au nouveau, tout simplement, ça va être une divergence d'un point de vue des cours et de l'indicateur. Pour que ce soit un peu plus clair, la divergence va permettre de constater tout simplement ce qu'on appelle, comment expliquer ça simplement,
bon, on peut dire simplement que les comportements des prix et de l'indicateur sont différents. La façon effectivement de le dire, enfin la manière dont tu l'utilises est classique, on va dire, à ce niveau. Hein. Quand par exemple il y a des sommets sur le RSI et pas de sommets sur l'indicateur, c'est une forme de divergence, quoi.
Tout à fait. En fait, dans la divergence, nous parlons de divergence lorsque le cours et l'indicateur suivent une tendance opposée, pour faire simple. Donc on va dire que la divergence haussière se caractérise lorsque la tendance du cours est baissière, alors que l'indicateur indique l'opposé. Si l'indicateur indique une hausse des cours, alors que ces derniers continuent de chuter. Et ce sera inversement pour la divergence baissière.
Ouais, c'est exactement ça. Alors du coup, tu peux entrer à l'achat ou à la vente uniquement sur un signal de RSI.
Alors ce qui est important de noter, c'est qu'au début, quand j'ai commencé avec les divergences, par exemple, je prenais tous les signaux qu'on avait sur les divergences. Il faut savoir que les divergences, je dirais qu'on a une probabilité de succès de 70%, à peu près. Ça va dépendre des marchés, ça va dépendre des actifs, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Et je me suis rendu compte que maintenant, les divergences, je les travaillais sur zones, essentiellement, et les zones de prix. Alors certes, j'ai pas forcément besoin d'avoir... Il y a deux méthodes, on va dire, dans la divergence. Je dirais que soit je peux attendre un signal de retournement avec un chandelier japonais, justement, ce qui offre vraiment un taux de succès, on va dire, un taux de probabilité plus élevé que s'il n'y avait pas de signal avec un chandelier de retournement. Et sinon, quand j'ai pas de signal, ce que je fais, c'est que je regarde où se trouvent les prix sur mon graphique. Est-ce que cette divergence est dans une zone ? Et j'ai remarqué que finalement, se positionner à l'achat ou à la vente avec des divergences sur des zones de prix, eh ben, était beaucoup plus pertinent et que si la divergence se trouvait, on va dire, au milieu de nulle part.
C'est très important ce que tu dis pour les débutants. Tu peux expliquer ce que tu appelles une zone de prix?
Alors, une zone de prix, pour moi, ça va être des éléments, surtout une zone de prix, c'est un support, une résistance, pour faire simple. Donc, qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance? Un support, eh bien, c'est deux droites horizontales qui permettent, c'est là où on va voir que les prix butent, où les prix ont tendance à rebondir, on voit que les prix, on va dire, travaillent ce niveau, ce qu'on appelle. Et ça permet de constater, ce sont dans la théorie de Dow, que ce soit qu'on a des creux de plus en plus haut, ça nous fait des replis. En général, on a dans une tendance haussière, on a des replis sur support. Dans une tendance baissière, ce sera des replis sur résistance. Donc, identifier les niveaux de support et de résistance. Après, moi, ce que j'appelle des zones, c'est là où on va avoir des éléments qui convergent. Par exemple, je me mets sur un graphique mensuel et je descends. Je commence en trimestriel, en mensuel, en hebdomadaire, et j'essaye de relier avec les prix tous les éléments qui m'indiquent que ce niveau-là est très important. Donc, je vais commencer avec une zone trimestrielle, peut-être que je vais descendre sur d'autres niveaux, que je vais avoir des mèches, une accumulation de body, donc de corps, des bougies. Et cet élément, tous ces éléments, une fois je vais tracer ma zone, ce qu'on appelle une zone assez large, et ça va me dire, tiens, ce niveau est important. Là-dessus, le marché risque de travailler ce niveau plutôt assez longtemps. Et si ça coince, bah, c'est normal, c'est qu'on est sur un gros niveau technique. Ainsi, le marché risque de travailler, de mettre un peu plus de temps avant soit d'enfoncer ou peut-être de rebondir. Voilà ce que j'appelle les zones. Et en fait, ces zones sont tout simplement, c'est défini par l'action des prix.
Ok. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu es en train de dire que de manière privilégiée, tu vas utiliser le RSI avec des divergences, donc du coup, tu vas essentiellement intervenir sur des zones des supports et de résistance davantage que sur des cassures de support et des cassures de résistance?
Exactement. C'est tout
okay.
à fait ça. Et vraiment intervenir sur des zones. Après, oui...
Pas sur des breakouts. Et toi, ton style, c'est essentiellement le respect des supports et des résistances. Parier sur le fait qu'elles se maintiennent. D'accord, ok. Et alors justement, quand on arrive sur ces zones, quels sont les, parce que c'est ta spécialité aussi, quels sont les chandeliers japonais qui te mettent la puce à l'oreille? Celles que tu préfères et peut-être aussi celles que tu penses qui n'ont pas l'efficacité qu'on leur attribue généralement et que tu as abandonné peut-être ou auxquelles tu accordes plus trop d'importance.
Alors, pour avoir analyser vraiment l'ensemble des chandeliers japonais, je pourrais faire un top 5 des chandeliers. Ce serait les avalements haussiers. Enfin, le numéro 1 que je mets, c'est l'Island Reversal. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Island Reversal, c'est en français, ça veut dire îlot de retournement. Pour moi, lui, c'est le pattern le plus puissant, je trouve, très très rare. C'est tout simplement, c'est quand le marché, par exemple, imaginons, le marché monte, fait un gap haussier, qui n'est pas refermé, évolue durant 3-4 séances, un peu plus d'une séance au-dessus du gap, et refait un gap baissier à la baisse, du coup, et ne vient pas le combler, et laisse un trou de cotation, vraiment un espace, une fenêtre, on peut appeler ça, entre le gap haussier et entre le gap baissier, donc ce qu'on appelle un petit îlot de retournement. Donc, cette figure, pour moi, c'est l'une des meilleures figures de retournement. Elle est extrêmement rare, on ne peut pas l'avoir sur le forex, elle apparaîtra très rarement, étant donné qu'on n'a quasiment pas de gap, mais c'est la figure qui fonctionne le mieux, je trouve, mais elle est très rare. Pour d'autres figures, on va dire plus générales, ça va être l'avalement haussier, l'avalement baissier, ça c'est des figures, des patterns surtout, qui on va dire, qui fonctionnent relativement bien. On a aussi le piercing pattern, le dark cloud cover, et enfin je mettrai les étoiles du matin, les étoiles du soir, on peut avoir une variante avec le bébé abandonné, et tout le reste, je suis un peu moins fan. Je suis surtout, pour des patterns de retournement, j'aime bien utiliser des patterns avec trois chandeliers. qui se forme avec minimum deux ou trois chandeliers, et pas un seul chandelier. Après, on peut avoir des patterns avec un seul chandelier, comme l'étoile filante, le pendu, le marteau inversé. Je trouve que c'est des patterns qui s'utilisent bien dans des phases de range, mais qui ne sont pas assez puissants, je trouve, dans des phases de retournement de marché, vraiment pour retourner un marché haussier ou retourner un marché baissier. Je préfère vraiment associer des patterns qui ont une plus longue configuration, qui mettent plus de temps à se développer, comme une étoile du soir ou une étoile du matin, où il nous faut trois bougies pour valider la structure, un dark cloud cover ou un avalement, il nous faut deux bougies, alors que une étoile du matin ou une étoile du soir, il suffit juste, une étoile du matin, un marteau ou un pendu, il nous faut juste une seule bougie. Donc j'ai remarqué que les patterns qui avaient des plus longues structures, qui étaient entre deux et trois bougies pour se construire, étaient les plus puissants et les plus pertinents, en tout cas dans des phases de retournement de marché. Et c'est pour ça que j'aime bien les utiliser sur les zones. Pareil, car quand j'ai commencé l'analyse technique, on a envie de... On voit des patterns de partout, on voit des pendus, on voit des marteaux, on voit des étoiles filantes, des étoiles du soir, on voit des chandeliers de retournement un peu partout. Et si on les trade tous, on se rend compte qu'on se dit, mais finalement, l'étude des chandeliers japonais n'est pas forcément très pertinente. Et j'ai remarqué que si on utilisait ces chandeliers intelligemment et sur des zones de prix, là, on avait vraiment une vraie plus-value dans l'étude des chandeliers japonais. Et c'est pour ça que je parle des zones, et de savoir identifier correctement les niveaux de les grosses zones, les supports et les résistances, pour agir sur ces niveaux de prix. Et patienter, et savoir attendre que le marché vienne à nous sur ces niveaux de prix, et pas se précipiter en disant « il y a ce pattern-là, j'y vais ». Non, c'est « est-ce que ce pattern est sur un niveau ? Est-ce que ce pattern est dans une zone technique ? Si oui, eh bien là, on peut agir. Et logiquement, ça devrait mettre plus de probabilité de notre côté que si on agit un peu n'importe où au milieu du marché, tout simplement parce qu'on a envie, on va dire, de cliquer sur la souris.
Ok, Joris. Alors, ça, c'est très utile ce que tu as dit. Je suis sûr que ceux qui écoutent ton discours en tireront beaucoup. J'aimerais quand même te poser quelques questions sur la mise en place de ton trade. Donc, imaginons qu'on arrive, on a tous bien compris que toi, tu préférais jouer les renversements de tendance quand on arrive sur un support ou une résistance, que c'est davantage ça parce que ça te permet d'utiliser les divergences et également sur ces zones de prix, de support et de résistance que tes chandeliers préférés apparaissent, hein, puisque c'est pas des chandeliers de continuation, c'est des chandeliers de retournement que tu décris. Et quand tu vas rentrer en action pour toutes les raisons que tu évoques sur un support, comment tu établis ton stop et comment tu établis ton objectif, ou alors comment un débutant devrait s'y prendre?
Alors, pour moi, la base, vraiment, bien sûr, dans le trading, ça va être le money management. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Je pense que on a beau avoir la meilleure stratégie de trading, avoir le meilleur système, si derrière on n'a pas un minimum de psycho ou un money management en acier, eh bien ça risque d'être compliqué. La clé du succès en trading, c'est le money management. Donc dans le money management, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien essentiellement, je dirais, le ratio risque-reward. Le ratio risque-reward, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio risque-récompense. C'est tout simplement combien vous êtes prêt à perdre face au gain qu'il y a en face. Donc si vous êtes prêt, si on va dire, il faut un ratio en général minimum de 1 pour 2, je trouve, voire 1 pour 1,8, mais partons sur quelque chose de simple, ça va être un ratio de 1, une perte de 1 pour gagner 2. Alors en fonction de ça, c'est de savoir maintenant, en fonction du ratio qu'on vient de déterminer, peut-être même plus, hein, un ratio de 1 pour 3 qui est excellent, ou 1 pour 4, mais je pars du principe que pour qu'on débute, étant donné qu'on ne va pas forcément gagner beaucoup de trades, il faut un ratio correct. Car quelqu'un qui a vraiment plus d'expérience peut se permettre d'avoir un ratio, on va dire, un peu moins bon, mais il aura un autre ratio qui sera meilleur, c'est le ratio winner-loser, le nombre de trades gagnants sur le nombre de trades perdants. Mais quand on débute, tout simplement, il faut avoir un ratio, on va dire, assez bon et pas trop faible. Étant donné qu'on
aura... Tu as raison. Excuse-moi, je t'ai coupé, parce que je voulais vraiment insister sur ça, parce que c'est un point très important, et je vais le traduire en d'autres termes. Ce qui est important, selon toi, c'est de comprendre que lorsque l'on est but, on n'a pas raison très souvent, il faut partir du principe qu'on aura raison une fois sur deux, et qu'à, puisqu'on a raison qu'une fois sur deux, il faut être intransigeant au niveau du risk-reward, parce que quand on a raison une fois sur deux, c'est pas comme quand on a raison deux fois sur trois. Donc il faut pas transiger, faut partir du fait qu'on aura une réussite très très moyenne et que le gain vient vraiment du fait que l'on doit prendre ses objectifs à un niveau tel que ce soit bien supérieur au niveau de perte accepté.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça qui est important. J'ai mis énormément de temps à comprendre ce principe-là. Et ce qui fait qu'après, quand on est plus à l'aise, bien sûr, on peut se permettre d'avoir un ratio un peu moins bon, mais on va gagner plus de trades. On va être un peu plus constant sur la durée, car on aura appris nos erreurs, on saura ce qu'il ne faut pas répéter. Alors que quand on débute, honnêtement, je connais pas un trader débutant qui va me faire 80% de trades gagnants et 20% de trades perdants. On sera plus sur un 40-60, ou un 50-50, et encore.
Et donc, encore.
Vraiment, je suis vraiment très gentil quand je dis ça. C'est pour ça que c'est important de se dire quel est mon ratio, quel est le risk-reward. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment un minimum de 1 pour 2. Une fois qu'on sait notre ratio, qu'on se dit je prends le trade uniquement si j'ai minimum 1 pour 2, comment on va placer le stop? Eh bien, si on est dans un trading range, par exemple, on achète sur un support avec un chandelier de retournement, dans ce cas-là, le stop va bien évidemment se placer sous le support. Ensuite, l'objectif, ce qu'on appelle le take profit, lui, va dépendre, bien sûr, les chandeliers japonais. L'inconvénient, c'est qu'il ne délivre, on va dire qu'il ne délivre pas en fait d'objectif théorique, contrairement à une figure chartiste. La figure chartiste, on peut reporter la hauteur de la figure et on a un objectif théorique. Alors qu'avec les chandeliers japonais, on n'a pas d'objectif théorique en fait. Donc comment on peut déterminer ce niveau? Donc tout simplement, moi j'ai trouvé deux solutions. C'est soit on se dit, tiens, quelle est ma prochaine grosse zone, sans être non plus trop gourmand et trop ambitieux, en essayant de respecter son ratio bien sûr, qui semble cohérent avec le ratio. En tout cas, si le ratio n'est pas là, eh bien tant pis, on ne prend pas le trade. Même si le setup est bon, je pense que quand on débute, il faut être très strict et très rigoureux de se dire, même si ça va fonctionner, si je n'ai pas mon ratio, je ne prends pas le trade. Alors, soit, comme je le disais, en se basant sur la prochaine grosse zone de prix, soit ce que j'aime bien faire, moi, ce que j'ai trouvé qui était pertinent, c'est d'utiliser les retracements de Fibonacci. Et que si j'ai une tendance baissière, eh bien je prends la dernière vague de baisse pour jouer un retournement et j'essaye de voir en fonction des niveaux de retracement de Fibonacci si c'est possible en fonction de mon ratio d'aller chercher les 38,2 ou les 50%.
Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible d'aller chercher les 38 ou les 50? Qu'est-ce qui peut te faire viser un retracement de 23, de 38, de 50? Quels sont les éléments qui te mettent la puce à l'oreille?
Alors, moi, les éléments qui me mettent la puce à l'oreille, c'est que j'ai remarqué concrètement qu'avec les divergences, quand je prenais une divergence haussière ou baissière, eh bien, si je reprenais la dernière vague de hausse ou de baisse, logiquement, j'arrivais à atteindre les 50% de retracement de cette vague-là. Et je trouve que ça donne vraiment un objectif de prix. Pareil, les divergences, en fait, on se dit, mais l'indicateur me délivre pas forcément, l'indicateur RSI ne délivre pas d'objectif de prix en soi. L'indicateur RSI va nous donner des éléments pour nous dire quand sortir de position, quand la divergence, on va dire, s'affaiblit et risque de dysfonctionner. Au bout d'un moment, elle fonctionne et tôt ou tard, en fonction de comment évoluent les prix, l'indicateur évolue autrement. Donc l'indicateur va nous dire à ce moment-là, tiens, ici, il faut que tu sortes de position. Attention, ici, ça risque de coincer. Ça, j'ai remarqué. L'indicateur nous dit, nous envoie des alertes. Il dit, tiens, à ce moment-là, attention, le marché pourrait se retourner. Je pense que tu devrais sortir de position. Tiens, à ce moment-là, à mon avis, la divergence va s'invalider. Mais elle ne donne pas, en fait, des objectifs de prix. J'achète, je sais pas, une action à 100 euros, l'indicateur RSI ne va pas me dire, bah, tiens, l'objectif est à 130, 120. Non, là-dessus, pour avoir un objectif de prix, eh bien, j'utilise le ratio, enfin, du moins, le retracement de Fibonacci. Et quand je vois ma dernière vague de hausse ou ma dernière vague de baisse, j'essaye de prendre cette dernière vague de hausse ou de baisse et de viser les 50%. Dans un premier temps, d'aller chercher les 38,2, et ensuite, c'est au moins d'aller chercher les 50%. Et en ayant backtesté un peu cette méthode, je remarque vraiment que quand la divergence fonctionne complètement, on va quasiment à chaque fois chercher les 50%. Après, le plus difficile, c'est de savoir, on va dire, sélectionner comment, en plus là c'est dommage, j'ai pas de graphique pour mettre en parallèle mes explications, mais c'est de savoir quand démarre, on va dire, la dernière vague de baisse ou la dernière vague de hausse. Et là-dessus, ça demande pareil un entraînement. Pas prendre un historique de cours trop important, trop long, et ce qui fait qu'on va avoir au final finalement des objectifs qui seront jamais atteignables. Alors que si on prend une vague, on va dire, de prix qui correspond vraiment à une belle baisse, où on voit qu'il y a peu de repli, peu de phases correctives, on va dire, dans une vraie chute, eh bien là, si on prend vraiment cette vague-là, les prix ont tendance facilement à retracer les 50%.
C'est très instructif. Alors du coup, est-ce que toi, tu es un adepte des prises de profit partielles, ou alors tu préfères viser un objectif déterminé dès le début, quitte à te faire sortir parce que on n'a pas rallié l'objectif?
Alors, j'ai essayé un peu toutes les méthodes et je repasse maintenant un peu sur la seconde, parce que après, ça va dépendre vraiment de sa personnalité et surtout le poids émotionnel que ça va nous infliger. Est-ce que se dire j'étais en gain, je faisais un très beau gain, on n'a pas atteint mon objectif, finalement je me fais sortir, j'ai zéro impact, je suis complètement neutre, c'est pas grave, je passe à autre chose, ou j'étais gagnant, ça n'a pas atteint mon objectif, j'étais un peu cupide et gourmand parce qu'il me manquait 30 pips, finalement le marché s'est retourné, j'ai pas pris mes gains, et derrière ça me met un poids émotionnel, ce qui fait que ça change tout au niveau de mes émotions, et derrière ça peut me faire des bêtises dans ma gestion et dans mon money management, et en fait tout basculer, on va dire. C'est vraiment ça qui est important, je dirais, c'est de savoir finalement comment, quand le trade finalement se ne déroule pas forcément comme prévu et que soit on se fait sortir, quel est l'impact sur nos émotions et quelles sont les conséquences derrière. Là, par contre, c'est vraiment savoir se connaître soi-même. D'autres vont dire, bon, bah, très bien, je prends ma perte, je passe à autre chose, mais ça va en rien du tout influencer mes émotions. Moi, ce que je dis souvent, c'est quand même de prendre une partie de ses bénéfices. Pourquoi redonner au marché des gains si durement gagnés, surtout quand on débute? Je pense qu'un trader qui a de l'expérience pourra se permettre de dire, bon, bah, tant pis, j'ai fait une erreur, je passe à autre chose. Mais on va dire qu'il a le mindset, qu'il a ce mode d'esprit qui sait passer à autre chose. Il ne va pas... Ça va pas le travailler toute la journée en se disant, tiens, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Ça va pas le ronger. Vraiment, en trading, on peut se faire bouffer par les émotions. Et c'est ça le plus dur.
Ça t'est déjà arrivé, j'imagine.
Complètement. Complètement. Et c'est très important, je dirais, de maîtriser ses émotions. D'où ce que je disais tout à l'heure au début, on a beau avoir la meilleure stratégie de trading, si derrière, on n'a pas une maîtrise de nos émotions, c'est compliqué. Je pense que tout le monde peut faire du trading. Enfin, on peut tous essayer de se mettre au trading, mais pas tout le monde n'est fait pour le trading. Il y a certaines personnes qui n'arriveront jamais à gérer leurs émotions. De ce fait, le trading sera impossible pour ces personnes. Ça, c'est une certitude. Je pense que si les personnes n'arrivent pas à me donner à travailler leurs émotions, elles n'arriveront jamais à être des traders ou des tradeuses gagnants sur le long terme. Les émotions, pour moi, ce qu'on appelle, on va dire, le neurotrading, ce que j'appelle, c'est la clé. C'est la clé du succès avant la bonne stratégie. C'est pour ça que, qu'on revient à ta question que tu me disais, finalement, les stops, les take profit, comment tu les prends? Est-ce que ça va être partiel ou en fonction des objectifs? En fait, je pense qu'il faut n'y a pas de méthode miracle. Je pense qu'elle va dépendre en fonction de sa personnalité. Pour ma part, au début, j'étais, on va dire, vraiment dans un trading. Mon stop, c'est là. Mon TP, c'est là. Je reste comme ça. Quoi qu'il arrive, je ne fais rien du tout. Et j'ai appris à être un peu plus souple dans la gestion, à me dire, tiens, finalement... Et des fois, je discute avec des débutants, et je dis, bah voilà, mon objectif était là. Et je leur dis, bon, bah finalement, j'ai pris mes profits. Il me fait, oui, mais ton objectif était 30 pips plus bas. Et je leur fais, oui, mais regarde, là, je viens de prendre 250 pips. Est-ce que vraiment, je suis à 30, est-ce que pour 30 pips, sachant que j'ai déjà un ratio qui est correct, bien sûr, j'ai déjà un ratio qui est de plus de 1 pour 2. Mais je leur dis, finalement, pour 30 pips, est-ce que ça vaut le coup de se créer un poids émotionnel et une angoisse si derrière le marché se retourne. Parfois le marché atteint l'objectif, hein. Ça aussi c'est un biais qu'il faut travailler parce que finalement sortir trop tôt, comme on dit, il faut laisser courir ses gains et couper ses pertes. Mais parfois quand on débute, on a du mal à laisser vraiment le trade se dérouler jusqu'au bout et de se dire tiens finalement si le poids émotionnel est trop lourd et que c'est trop dur de supporter ça, eh bien on coupe, on prend partiellement ses bénéfices, ou au moins on remonte ses stops. On remonte, on prend 50%, on fait quelque chose. On agit, tout simplement. On ne laisse pas un trade se retourner, parce que j'ai déjà vu parfois des trades qui se retournent finalement. Hein. L'objectif des figures, si on en vient d'en parler des figures chartistes, eh bien on parle d'objectifs théoriques. Qu'on a un double top ou un double bottom, c'est des objectifs théoriques. En rien, c'est une science exacte que les marchés vont atteindre ce niveau. Et j'ai remarqué que parfois, si on est trop gourmand pour 10 ou 20 pips, alors qu'on a mis en place un plan de trading, on l'a noté dans notre journal de trading, on a patienté, on a attendu que le marché vienne à nous, on a respecté tout notre plan, et de se dire juste pour 10 pips, je vais jusqu'au bout, bah parfois ça peut se retourner contre nous, alors qu'en amont, on a mis en place toute une stratégie, on a mis des efforts pour... pour parfaire ce trade et derrière laisser le marché nous reprendre ses gains, on va dire, si durement gagnés, surtout quand on débute, ça peut être regrettable et ça peut surtout déclencher des émotions qu'on n'a pas forcément envie d'avoir.
Bon, alors Joris, maintenant je t'emmène sur les figures chartistes parce que tu en as parlé un petit peu et c'est vraiment quand même le béaba quoi. Est-ce qu'il y a des figures chartistes que tu aimes particulièrement et d'autres que tu as abandonnées parce que tu as constaté que c'était peut-être un petit peu surfait ?
Plusieurs figures que j'apprécie particulièrement, ça va être les doubles tops, donc ce qu'on appelle les doubles sommets ou les doubles creux. Il y a aussi les triple top, les triple bottom, qui ressemblent aussi dans cette même configuration. Pour moi, cette figure, c'est, pour l'avoir un peu aussi backtesté, je trouve que c'est l'une des meilleures figures chartistes, tradable en tout cas, qu'un trader de débutant se doit de connaître. Elle est très facile à identifier, il y a quelques règles, on va dire, mais elle offre vraiment un taux de succès assez élevé. Il y en a une autre que j'aime moins, alors que c'est celle que les débutants, j'ai remarqué, préfèrent et connaissent le mieux, c'est l'épaule tête épaule. Alors ça, on en voit de partout, et j'ai remarqué que même moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment l'épaule tête épaule. Et je trouve que c'est la figure qui a perdu de sa vitalité au fil des années. Et que finalement, j'apprécie cette figure sur des grosses unités de temps. J'aime pas cette figure sur des unités de temps courtes. J'ai remarqué que cette figure, l'épaule tête épaule, c'est vraiment une figure qui se valide bien sur des unités de temps vraiment importantes. Donc on a pu voir en 2008 sur le CAC 40, par exemple, on avait une jolie épaule, tête, épaule. Sur le DAX en 2018, quand les marchés ont chuté une première fois, on a eu exactement la même chose. On avait une magnifique épaule, tête, épaule. C'est pour ça que je vous dis que sur les unités de temps vraiment haute, importante, que ce soit du daily, du hebdomadaire ou du monthly, il y a une vraie pertinence sur cette figure. Alors que sur les autres unités de temps, on va dire, si on descend sur du 1h, 4h, certes, elle fonctionne, mais je dirais qu'elle n'a pas un taux de succès très élevé comparé à un double top ou à un range. Un range, c'est ce qu'on appelle un carré, un rectangle, et les cours vont évoluer de la borne haute à la borne basse, vont faire des oscillations à l'intérieur de ce range-là. Et pareil, ce qu'on appelle une phase latérale, une phase de consolidation de marché. Et pareil, trader les cassures de range à la hausse ou à la baisse, je trouve que aussi, c'est une figure que tout le monde doit connaître, parce que derrière, on peut aussi mettre en place des stratégies de trading range. Et c'est ça qui est important dans cette figure, dans ce rectangle de consolidation, c'est de se dire, tiens, les traders de range vont chercher à vendre à la borne haute, acheter à la borne basse, et ensuite à la cassure, accompagner le flux. Se dire, tiens, cassure, je reporte la hauteur de cette figure, si je suis à l'achat sur la borne basse et qu'on casse la borne haute, ça offre, c'est pour ça que j'aime bien les stratégies de trading range, c'est qu'à la fin, ça offre des ratios excellents, surtout si à un moment donné, on est positionné dans le bon sens, et qu'on sort, imaginons, par la borne haute ou basse, et qu'on était positionné sur la borne opposée. Et bien là, pareil, si on travaille bien la position, ça nous offre des ratios vraiment excellents. Et c'est une figure qui fonctionne plutôt bien. Et la troisième figure, je dirais, c'est les triangles, bien sûr. Les triangles, pareil, ça, il faut savoir les analyser correctement avec les volumes, mais c'est des figures qui, finalement, je trouve, se trade facilement. Ensuite, il faut savoir les repérer. Pareil, en fait, ça va revenir à la même chose que je disais pour les chandeliers japonais. Quand j'ai commencé les figures chartistes, je voyais des biseaux, des triangles, je tirais des droites pour essayer d'avoir ma figure, me dire, tiens, là, j'ai un magnifique triangle. Et en fait, j'avais une mauvaise lecture, j'avais une mauvaise interprétation, parce que je tradais ce que je voulais voir et pas ce que je voyais.
Classique,
ça, très important, c'est de se dire, tiens, finalement, peut-être c'est l'envie de trader, peut-être que c'était des émotions qui étaient mal gérées, mais je cherchais absolument à dessiner, on va dire, sur mon graphique quelque chose, alors qu'il y avait en fait rien du tout, et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, et puis derrière, finalement, on se rend compte que, tiens, un triangle, ça commence comme ça, il se passe ça au niveau des volumes, il y a une accélération à la fin, un triangle, il faut qu'il y ait plusieurs rotations. Là, finalement, en étudiant un peu plus profondément les figures chartistes, on se rend compte que oui, j'étais complètement à côté de la plaque, mais que bien des figures chartistes vraiment bien structurées et bien identifiées. Alors certes, on est toujours sur des probabilités, mais ça peut permettre en tout cas de se dire, tiens, pourquoi pas prendre ce trade, ou au contraire, si on était à contre-courant, de se dire, tiens, en fait, il y a un double top qui est juste en face de au-dessus de ma tête, je suis à l'achat, il y a un signal de retournement. Bon, ça permet aussi d'identifier, je trouve, la configuration du marché, et d'éviter certains pièges, tout simplement.
Ok. Alors, puisque tu parles des triangles, du coup, est-ce que tu considères qu'une cassure de triangle ou quelques figures chartistes que ce soit est valable avant que l'on ait clôturé, ou tu attends qu'on ait clôturé par-delà la figure, ou tu attends une bougie entière? Il y a plusieurs écoles. Quelle est la tienne?
Moi, je suis sur les clôtures. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui n'attendent pas les clôtures. Moi, quand je vois un triangle, alors il y a plusieurs écoles, effectivement. Moi, je sais que certains me disent, je trade les triangles uniquement sur pullback. S'il n'y a pas de pullback, je ne les prends pas. D'autres n'apprécient pas forcément cette figure. Moi, pour ma part, j'attends quand même une clôture avec une bougie. Ça aussi, c'est très très important. C'est une bougie impulsive, une bougie flux. Qu'est-ce qu'une bougie impulsive? Qu'est-ce qu'une bougie flux? C'est une bougie qui a du corps. On veut dire que son corps de la bougie est plus importante que les mèches. Si on a une cassure avec une espèce de doji, tu vois, une bougie où on a une longue mèche et un tout petit corps, Et ça montre de l'hésitation dans le marché, en fait. Ça montre que les doji, ça représente un peu ça, une phase d'incertitude, d'hésitation, et c'est très piégeux. Alors que vraiment, une bougie fluide, une bougie impulsive, on voit qu'il ne... Voilà, étant donné que la bougie représente la psychologie des investisseurs, qu'on voit dans le corps d'une bougie, quasiment ça ressemble à un marabouzou. Un marabouzou, ça va être une bougie, on n'a quasiment pas de mèche haute ni de mèche basse. Bah, ça représente une force acheteuse. Et là, on va se dire, tiens, là, il y a quelqu'un en face. Là, on sait que, y a potentiellement un flux qui va se déclencher. D'où, c'est pour ça que je dis, les figures, c'est bien, mais de savoir se dire à un moment donné qu'on paye, moi, ça va être sur clôture, et avec une bougie, bien sûr, qui a du flux, qui a du corps, qui montre qu'il y a une force dans la psy quand on interprète cette psychologie de bougie, qu'on se dit, tiens, là, effectivement, il y a quelqu'un en face, il y a un flux qui est en train de se construire.
Tu parles de triangle là, enfin ce qui t'intéresse, tu parles de triangle sur quelle UT, sur quel actif, hein?
Concernant les triangles ou toutes les figures, j'ai remarqué sur tous les actifs, ça fonctionnait plutôt bien. Honnêtement, alors moi à la base, je suis plus du marché action. Là, au sein de Daily FX, c'est plus, on va dire, forex, matières premières et indices. Les figures, pour moi, j'ai pas un marché de prédilection, on va dire, que je préfère. Certes, c'est plus le marché action. Donc effectivement, j'aime bien voir, enfin, on voit que sur le long terme, la bourse, c'est un domaine qui est porteur et qu'en général, une action en bonne santé va évoluer dans une tendance haussière. À l'inverse, on voit que le forex, finalement, si on regarde sur une unité de temps trimestrielle, bien souvent, c'est beaucoup de range dans le forex. On constate que c'est quasiment 70% de range et 30% de phase où le marché est en tendance haussière ou baissière, alors que sur le marché action, sur de beaux dossiers, logiquement, on est plutôt dans une phase de tendance haussière, et le marché montant en ligne droite va effectuer des phases de latéralisation, de consolidation. Et on va avoir ces phases de consolidation à travers bien souvent des figures. Et en général, ça va consolider dans des drapeaux, dans des fanions, dans des rectangles, dans des triangles. Et c'est pour ça que j'aime bien les figures chartistes sur le marché action.
Si on parle du marché action et du triangle sur marché action, ton stop, tu le mets où lorsque tu considères qu'une cassure de triangle est validée et correspond à toutes les conditions que tu voulais?
Alors, par exemple, sur un triangle, on va dire. Pour moi, il y a deux niveaux de stop. Si on prend, allez, on va prendre simple, un triangle symétrique, donc qu'on va casser la première borne haute, donc on va sortir par le haut du triangle symétrique, on va casser la borne, et bien soit le stop, je le place, on va dire, au milieu de la figure, entre la borne haute et la borne basse du triangle, qu'elle est au milieu, le stop, soit complètement sous la borne opposée, donc sous l'oblique haussière. Pour me dire, tiens, si j'ai un pullback un peu agressif, éviter bien sûr de me faire sortir bêtement. Ce qui arrive, des fois, on a souvent, surtout sur le forex, je trouve, on a des mèches que j'appelle des mèches assassines. C'est finalement le marché fait une belle mèche et histoire de sortir, faire une chasse au stop, ce qu'on appelle. Et puis finalement, ça sort tout le monde et derrière, le marché en fait reprend la tendance. Mais on a juste une belle mèche qui est venue sortir toutes les personnes qui avaient mis des stops trop serrés, trop agressifs. Mais après, pareil, ça va dépendre de la classe d'actifs. Mais sur les actions, soit le stop, j'essaie de le mettre, on va dire, au milieu du triangle, soit vraiment plus, on va dire, plus bon père de famille, enfin, plus moins agressif, sous la deuxième borne, sous la borne opposée. Et bien sûr, ça va être de regarder le ratio. Mais après, tout va dépendre du profil. Si au contraire, on est dans un profil d'investisseur de long terme, qui souhaite renforcer une position sur ce dossier, ou si on est vraiment dans du trading. Mais mon stop va surtout être placé vraiment en fonction du ratio, je dirais. Et essentiellement, on en revient toujours à cette histoire de money management et de me dire, tiens, est-ce que là, j'ai mon ratio de 1 pour 2? Et parfois, en fait, on a aussi une sortie de triangle qui est trop forte. Comme j'ai pu le voir là actuellement, surtout qu'on a beaucoup de volatilité sur les marchés, on n'a pas forcément de pullback. Moi, ce que j'aime bien, c'est sûr, c'est attendre des pullbacks sur l'oblique pour pour rentrer en position. C'est vrai que ça permet d'affiner sa prise de position et d'avoir un meilleur ratio. Le problème, c'est que quand on a beaucoup de volatilité, on a des cassures. Les cassures sont des bougies impulsives, flux, et on n'a pas forcément de pullback pour se positionner. Et le plus compliqué chez le débutant, c'est le FOMO, c'est la peur de manquer ce qu'on appelle le FOMO, c'est la peur de manquer la hausse en cours ou la poursuite haussière. Et résultat, c'est on se positionne déjà sur un marché qui a déjà accéléré à fond et notre stop n'est pas, on respecte plus notre money management. Et derrière, eh bien, ça peut poser problème sur notre gestion du risque. Et bien sûr, dans notre trading. Donc après, tout va dépendre en fait des éléments de marché en fonction de la volatilité, en fonction du ratio. Mais principalement, j'essaye de me dire, tiens, quand je trade une figure chartiste, j'essaye d'avoir un ratio minimum de 1 pour 2. Et parfois, j'ai un ratio de 1 pour 1, en fait.
Ouais, écoute, ça c'est très intéressant. Et du coup, alors, parce que c'est quand même la deuxième ou troisième fois que tu parles de ça, je pense que c'est important. À titre personnel, et puis ensuite ce que tu recommandes aux débutants, tu conseilles d'avoir quel pourcentage de ton capital de trading menacé par trade? Alors, je vais reformuler parce que ce n'était pas une très bonne formulation. Imaginons que tu prennes un trade, quel qu'il soit, forex, action, qu'importe, que tu as un niveau de stop tel qu'il occasionne une perte en euros de temps. Quel est le pourcentage que cela ne doit pas dépasser dans ton capital de trading?
Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment... Je pense... Alors, on entend tout. Il y en a qui vont dire, oui, si on a un petit capital, je peux comprendre que c'est compliqué de passer des heures. Oui, c'est sûr, on a 500 euros de capital. Imaginons quelqu'un qui débute, 500 euros, qui est 10 heures derrière ses écrans, qui se dit, tiens, j'ai passé 10 heures pour gagner, allez, même pas 10 euros si je prends, allez, 1 ou 2%. Ça peut être frustrant. Après, c'est dire, c'est quoi le but? C'est s'entraîner, c'est le but, c'est quoi? C'est du trading loisir, c'est du trading par passion, c'est du trading dans le but d'en vivre, c'est du trading dans le but de faire fructifier son capital. Donc il y a déjà toutes ces questions-là à se poser. Ensuite, je pense que ça va surtout dépendre, ce que j'essaie d'expliquer à certains clients, c'est quel est votre style de trading surtout. Quel est votre style? Dans le sens, est-ce que vous êtes swing trader? Est-ce que vous faites de l'intraday? Est-ce que vous faites du scalping? Et en fait, quelqu'un qui va faire du scalping ou quelqu'un qui va faire du swing trading n'aura pas du tout, enfin aura du money management, ça c'est sûr, mais n'aura pas la même gestion du money management. Dans le sens où moi j'explique qu'un trader doit être capable de se fixer une perte maximum par trade et une perte maximum journalière. Ça, c'est très important. C'est de se dire, tiens, si ma perte journalière, c'est 1% de mon capital, dans la journée, si je fais 10 trades, j'accepte de perdre 0,1% de mon capital. C'est cet élément-là qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est de se dire, et de se faire, en fait, pour revenir au scalper et au swing, eh bien, le scalper va peut-être prendre, je sais pas moi, 10, 15, 20 trades dans la journée, alors que le swing, la personne qui swing, va peut-être prendre 1, 2 ou 3 trades dans la semaine. Ce qui fait que la gestion n'est pas du tout la même. Enfin, la gestion, la méthode de calcul, en tout cas pour sa prise de position, elle reste la même. Mais finalement, quelqu'un, un swing trader qui va prendre, je sais pas, 10 positions dans le mois, parce qu'il a une heure ou deux heures de temps devant les écrans, peut se permettre de risquer 1% de son capital par trade, voire 2%. Alors qu'un scalper, il ne peut pas se permettre de risquer, je pense, 1% de son capital, voire 2% de son capital par trade. C'est surtout si on débute. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Ça risque d'être compliqué, étant donné qu'il risque de faire sûrement entre 10, 15, voire 20 trades dans la journée. Imaginons, comme on disait, qu'on débute, on a tendance en plus à perdre plus de trades qu'on en gagne. C'est pour ça qu'on dit que le ratio est hyper important, car si on perd plus de trades avec un bon ratio, finalement on gagne quand même de l'argent. Mais s'il s'amuse à miser, on va dire, 1% de son capital sur du scalping, derrière, si on fait 15-20 trades, finalement, le capital, on peut vite le faire fondre. C'est pour ça que j'explique qu'en gros, que la gestion des stops va dépendre en fait de son profil, pour moi. Puis si on est en intraday, si on est en swing ou si on est en scalping, je pense qu'on n'aura pas un scalper, une gestion, on va dire, il y aura moins de levier. Un swing trader, pour moi, peut mettre un peu plus de levier, mais de manière générale, je dirais que il faut éviter, surtout pour les débutants, de risquer plus de 1% de capital par trade. Enfin, moi, personnellement, je suis swing trader, voire je fais de l'intraday, et j'utilise 1% de mon capital, et certains trouvent que c'est même trop. Et après, tout va dépendre du capital. C'est vrai qu'il y en a qui disent, mais finalement, miser 1%, si on a justement un capital de 50 euros, ça peut être 500 euros, ça peut être frustrant que si on a un capital de 100 000 euros. Mais après, c'est qu'est-ce que vous en faites de ce capital, en fait. C'est de se dire, tiens, finalement, je suis prêt à prendre plus de risques, parce que pour moi, le trading, c'est avant tout un loisir, j'aime ça. Ou finalement, non, moi, je veux suivre une gestion stricte et rigoureuse avec méthodologie, pour, dans le temps, développer et fructifier mon capital, pour passer d'un capital de 1000 à 5000, de 5000 à 10000, de 10000 à 50000, de 5000 à 100000. Ça va vraiment être de la méthodologie. Et je pense qu'il faut s'entraîner et faire des tests par soi-même pour se rendre compte que le money management, en fait, pour revenir à ça, c'est ce qui fait la différence entre un pro et un particulier, en fait. C'est le money management, c'est la clé du succès. Comme je le dis souvent, on va dans des salles de marché, un pro, quand il prend sa perte, il y a son manager qui vient le voir, qui lui tapote sur l'épaule, qui lui dit « t'as pris ta perte max journalière, tu fermes ta plateforme, tu rentres chez toi ». Dans les salles de marché japonaises, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Un particulier, il prend sa perte, et j'ai souvent des particuliers qui me disent « je viens de prendre ma perte ici, tiens, je vais aller faire du scalping pour me refaire ». Me refaire, comme si c'était un peu du casino.
C'était plus facile, surtout.
Voilà. Et finalement, ce que je remarque deux comportements, c'est soit en fait, on prend notre perte et il y a le poids émotionnel qui fait que c'est trop dur, on n'accepte pas cette perte, faut se refaire. Donc on va aller sur un autre marché qu'on n'a pas du tout l'habitude de maîtriser. Et sinon, c'est aussi des personnes qui ont défini leur profil, qui sont swing. Le swing n'a pas fonctionné, ils ont pris leur perte et se disent tiens je vais aller faire du scalping là pour me refaire. Alors qu'à la base ils n'ont pas du tout le profil d'un scalper. Donc c'est très intéressant de voir finalement comment la gestion du trade derrière peut avoir des conséquences sur notre méthodologie. Et en fait c'est ce qui fait la grande différence vraiment entre le pro et le particulier, c'est que le pro sait s'arrêter à un moment. Alors que le particulier, lui, est livré à lui-même et que personne n'est derrière lui pour lui dire « coupe ta plateforme, tu as atteint ta perte max par trade, ta perte max journalière, c'est terminé. Tu reviens demain ou tu reviens la semaine. »
Bah écoute, ça c'est vraiment très important et merci encore une fois d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment indispensable à connaître, à comprendre et encore merci d'avoir partagé ton savoir. Ça sera peut-être l'occasion d'organiser déjà un deuxième rendez-vous parce que tu en as encore sous le coude, je vois bien. Et puis j'avais encore beaucoup de questions à te poser, mais voilà. Tu dois travailler, tu dois reprendre. Alors, on te retrouve où ? On te retrouve évidemment chez Daily FX. Bon, tu as un compte Twitter aussi, hein ?
Tout à fait. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent me suivre, vous pouvez bien sûr me retrouver bien sûr Daily FX France tous les jours. Comme je disais en début d'émission, eh bien, je publie des articles quotidiennement pour nos lecteurs. Et bien sûr, sur Twitter, où là, c'est plus facile pour échanger. Je réponds à tout le monde en général. Je partage des graphiques. Je vous accompagne du moins dans la compréhension des marchés. J'essaye de vulgariser et décrypter au mieux les marchés pour vous rendre cela accessible. Donc c'est pour moi le meilleur réseau, en tout cas si vous souhaitez vraiment échanger et approfondir certains thèmes, c'est de me rejoindre sur Twitter où là je réponds en général à tout le monde.
Écoute, merci beaucoup Joris et à très bientôt sans doute. Hein.
Écoute, merci à toi. Et puis si je devais conclure sur une dernière chose, je dirais que pour quelqu'un qui débute dans le trading, qui souhaite on est en écouter cette vidéo, c'est le plus important, je pense, que ça va être de déterminer son profil. C'est hyper important et ça peut vous faire gagner énormément de temps. Notre personnalité correspond à des styles de trading et pour ma part, j'ai tout essayé, que ce soit le swing, l'intraday ou le scalping. Et je pense que quelqu'un qui débute doit pas se dire « je veux faire du scalping, je veux faire du swing ». Non, en fait, quelqu'un qui débute devrait limite commencer par un livre sur la psychologie, on va dire, et le neurotrading, pour savoir en fait vraiment qui je suis, et en fonction de ma personnalité, quel style de trading est adapté à ma personnalité. Car tout le monde ne peut pas faire du scalping, tout le monde ne peut pas faire du swing. Pour ma part, faire du scalping, je trouve que c'est horrible, le poids émotionnel est trop fort, d'avoir un processus de décision qui est inférieur à 10 secondes, voire allez, à 5 minutes grand max, me déclenche en moi des émotions vraiment insoutenables. Et pour d'autres, faire du swing et se dire tiens, je prends une position, je mets un stop large, mais je garde cette position durant toute la nuit, alors que le marché est ouvert, si on est sur du forex, ça crée en moi des angoisses. Limite, je deviens insomniaque parce que j'arrive pas à dormir. Voilà, c'est vraiment très important, je pense, pour quelqu'un qui débute le trading, de se dire, avant de dire je veux faire telle stratégie, je veux faire ci, je veux appliquer ça, commencez par déterminer votre personnalité qui déterminera en fait votre profil de trading.
Eh bien, c'est tout à fait légitime et c'est du bon sens. Et c'est un excellent conseil. Je suis sûr que beaucoup apprécieront ça. Merci Joris.
Et, merci à toi, Pablo.
Très bonne journée à toi.
Merci, toi aussi.
Retrouvez Salut. Joris sur son compte Twitter ou directement sur DailyFX. À bientôt.
À bientôt.